Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Radio Campus Rennes. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où la sieste pointe, je m'en vais vous conter toutes les récits, fables et légendes que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. J'ai décidé de regrouper les différents contes que je vais vous présenter aujourd'hui sous un titre un peu mystérieux. Masques et figures. Masques et figures, ces masques qu'on porte pour se cacher, ou au contraire ces masques qui nous représentent, ces masques que l'on porte depuis notre petite enfance. Nous avons un masque par visage social, le masque du travail, le masque des amis, le masque de l'amour. Et à force de les porter, de devenir maître dans la gymnastique subtile du changement de visage, eh bien ces masques ne font plus qu'un avec nous. Et il arrive parfois qu'il n'y ait plus rien sous le masque. Alors, masques et figures aujourd'hui, ce sont des histoires de masques, de visages, d'identité et de secrets. Alors approchez vos oreilles du transistor, car une histoire va commencer. La tribu indienne habitait dans la forêt depuis des générations et des générations. Ça n'était pas ces Indiens qui habitaient dans les plaines et chassaient le bison, mais c'était ces Indiens installés dans les bois qui cueillaient et chassaient les cerfs pour survivre. Et le chef de cette tribu s'appelait Albatros. Un grand Indien, très sage, disait-on. L'hiver était venu vite, mais la tribu était préparée. Ils avaient pendant des mois ramassé des baies et des fruits qu'ils gardaient précieusement dans une hutte, dans une petite tente, et cette réserve de fruits leur durerait jusqu'à l'été suivant. Et quand la dernière baie du dernier jour de récolte eût été placée dans la hutte, Albatros, content, décida de placer un garde devant cette hutte pour assurer la sécurité de leur réserve alimentaire. Et il est parti se coucher, tranquillement, insouciant. Mais le garde est venu réveiller Albatros en pleine nuit, jusque dans son tipi. « Albatros, réveille-toi, je t'en prie, il y a un problème. Quelque chose est entré dans la hutte. » Albatros se réveille, s'habille de quelques vêtements et se rend fissa vers la hutte. Il y avait effectivement quelque chose dedans. Quelque chose en train de manger. En train de manger leur réserve de nourriture. C'était une limace. Mais pas une limace comme celle de nos pays. Une limace noire, grosse comme une courgette. Énorme, suintante et sale qui engouffrait dans sa bouche béante les baies les unes après les autres. Ces limaces-là, il les connaissait, même s'il n'en avait heureusement vu que peu. Le moindre contact physique peut vous être mortel, à cause du venin qui les recouvre. Et l'attaquer avec une lance ou une flèche serait bien trop dangereux, car elle risquerait d'exploser en envoyant son poison partout dans la tente. Impossible de l'attaquer, et cette limace se coinfrait de leur nourriture, toute leur réserve pour l'hiver. Si on la laissait faire, elle mangerait toute leur nourriture jusqu'à en exploser. Il fallait faire quelque chose. Le village s'était bientôt attroupé autour de la hutte et regardait, anxieux et en attente, leur chef Albatros pour qu'il fasse quelque chose. Alors Albatros a eu une idée. Et il s'est dit, si on ne peut pas l'attaquer cette limace, on va lui faire peur. Il est rentré chez lui et il se mit à l'ouvrage. Toute la nuit il coupe, toute la nuit il peint, toute la nuit il colle et le lendemain il revient vers la limace. Et il s'est fabriqué un masque de taureau, un masque de Watusi. Un taureau énorme avec des cornes gigantesques, pointées vers la limace, le naseau fumant. Le taureau, c'est la puissance, le taureau, c'est la provocation, le taureau, c'est la force brute. Avec ce masque, il veut dire à la limace, « Va-t'en, va-t'en car je suis plus fort que toi, va-t'en car tu ne pourras pas me vaincre. » La limace lève les yeux un instant de son festin, regarde le taureau, tremble un instant, mais recommence à manger des baies. Ça n'a pas fonctionné. Mais Albatros ne se décourage pas. Il retourne chez lui et se met à l'ouvrage. Toute la nuit, il coupe. Toute la nuit, il peint. Toute la nuit, il colle. Et, le lendemain, il arrive devant la limace avec un masque encore plus effrayant. Avec un masque d'araignée. 8 longues pattes velues et autant d'yeux rougeâtres accrochés à ce masque, affublé de 2 mandibules tranchantes. L'araignée, c'est la peur ancestrale, la peur viscérale. Mais c'est aussi la ruse, l'étoile qu'elle s'est tissée pour attirer ses ennemis. Avec ce masque, il veut dire à la limace, Tu ne me fais pas peur, c'est moi qui te fais peur, et par la ruse je saurai te faire partir. » Il fixe la limace avec insistance, affublée de son masque. La limace lève les yeux un instant de son festin, tremble un instant, commence à s'éloigner du tas de... mais recommence à manger des baies. Le masque n'a pas fonctionné. Alors Albatros se dit qu'il faut peut-être changer de technique. Masque, oui, mais ce n'est pas la force qu'il lui faut. Il faut qu'il prouve à la limace qu'il restera ici et qu'il n'abandonnera jamais. Alors il rentre chez lui et se met à l'ouvrage. Et toute la nuit il coupe, toute la nuit il peint, toute la nuit il colle. Et le lendemain, il arrive devant la limace avec un masque de tortue. Un vieux masque à la peau dure et au bec tranchant. Une vieille tortue de terre, avec ce masque qui veut lui dire « Eh bien, je serai résistant jusqu'au bout. Toutes tes attaques ne pourront rien me faire. Et je vivrai des années s'il le faut, mais j'aurai ta peau. » Alors il se plante devant la limace, la fixe de son masque. La limace lève les yeux un instant, tremble un peu, commence à s'éloigner du tas de baies, un peu plus, mais recommence à manger des baies. Le masque n'est pas suffisant. Alors Albatros rentre chez lui. Il se dit que lui faire peur, peut-être, ça n'est pas la bonne solution, mais on peut la séduire, l'attirer. Alors il rentre chez lui et se met à l'ouvrage. Et toute la nuit, il coupe, toute la nuit, il peint, toute la nuit, il colle. Et le lendemain, il arrive devant la limace avec un masque de petit chat. Un petit chat mignon, adorable, avec des grands yeux humides et des oreilles poilues. Il regarde la limace, ronronne un instant. La limace lève les yeux du festin. Voit ce petit chat si adorable et commence à s'approcher de lui. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais elle recommence à manger des baies. Albatros n'en peut plus. Le village est découragé. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas dormi et qu'il travaille toutes les nuits pour essayer de se débarrasser de cette limace qui se joue de ses stratagèmes. Alors il décide d'aller se reposer un instant. La nuit porte conseil, paraît-il. Et... comme n'importe qui, avant d'aller se coucher, il décide d'aller se laver les dents. Il se rend dans sa salle de bain, commence à se brosser les dents et s'aperçoit dans le miroir. Il a vraiment mauvaise mine. Les yeux bouffis, les cernes creusées, le teint pâle verdâtre. Vraiment, il... attend un peu. Attends un peu. Attends un peu. Albatros décroche le miroir, le retourne, et s'approche de la limace une dernière fois, avec le miroir tourné vers elle. Et il l'appelle « Hé, sale bête !» La limace lève les yeux de son festin et aperçoit en face d'elle la chose la plus horrible qu'elle n'a jamais vue. Elle aperçoit une espèce de masse visqueuse, noire et gluante, une espèce de chose molle qui, à force de manger des baies, est gros comme une citrouille, prête à exploser les veines saillantes. Et quand elle voit son reflet dans le miroir, si sale, si dégoûtant, si répugnant, elle se met à trembler de tout son corps et déguerpit en rampant aussi vite qu'elle peut dans la forêt, laissant derrière elle un sillon d'herbe brûlée. Et elle a eu tellement peur que je crois qu'elle rampe encore. Le village a célébré la sagacité d'Albatros. Ils ont enlevé du bout d'un bâton les quelques baies encore souillées du poison de la limace. Et la tribu indienne a réussi à passer l'hiver sans encombre. Et c'est depuis ce jour, si vous y allez, que sur chaque maison, il y a un masque. Chaque habitant a fabriqué son masque. Or, ils ne servent plus à grand-chose, mais c'est depuis ce jour-là et depuis ces événements-là que la tribu des Indiens sait fabriquer des masques. Aujourd'hui, c'est carnaval. Et la bande de joyeux lurons s'en sont donnés à cœur joie. Carnaval, c'est leur jour préféré. car ce jour-là, si tout le monde est masqué, personne ne peut se reconnaître. Et c'est la nuit parfaite pour accomplir leurs méfaits. Oh, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont renversé les tables, cassé des verres, mis quelques mains aux fesses, ils ont ri fort et fait des blagues grasses. Ils étaient, je ne sais pas combien, une petite dizaine d'amis à rire et à passer de fête en fête, de rue en rue, et même de village en village pour accomplir leur mauvais tour. Et ils ont ri à s'en fêler les côtes, et finalement le matin s'approchait. Alors ils ont décidé de venir prendre un dernier verre d'eau de vie, chez l'un d'entre eux. Ils se sont retrouvés tous dans sa maison, le matin ne pointait pas encore. Ils ont allumé un feu dans la cheminée pour se réchauffer, et, tous encore masqués, ils se sont comptés pour voir combien de verres servir. Ils étaient 8, alors ils ont aligné 8 verres, et ils ont rempli les 8 verres d'une goutte qui n'était certes pas la plus délicate, mais en tout cas qui réchauffait le corps et le cœur. Chacun des 8 hommes masqués ont pris un verre, ont trinqué, ont levé leur masque et ont bu le verre. Et ils ont reclaqué le cul du verre vide sur la table. Mais il restait un verre. Un verre sur la table qui n'avait pas été bu. C'est étrange, on avait servi 8 verres pourtant. Ils se comptent. 7. Ils sont 7. C'est étonnant car le garçon qui tient encore la bouteille aurait juré qu'ils étaient 8 tout à l'heure. Ils remettent leur masque. Ils se recomptent. Ils sont 8. Ils enlèvent leur masque. Ils se recomptent. Ils sont 7. Il est là. Il est là, avec nous. Le malin. Le diable. Ils ont retiré leurs masques et les ont jetés au feu. Et ils n'ont pas bougé, tous fixant l'âtre de la cheminée, jusqu'à ce que la dernière braise du dernier masque se consume. Et la bouteille est restée là, ouverte, à moitié remplie, et plus personne n'avait le cœur d'y toucher.
Des figures, des figurants à effacer, des faces A, des faces B, à pas feutrer, à trait des formes, alter, malentendu entre les tout, et c'est le fou qui était. Chavirait par-dessus bord, des ailes, des grands ailes, tout entier, auxquels peuvent s'ajouter des oiseaux mazoutés. J'ai douté des détails. Jamais du don des nus, j'ai douté des détails. Jamais du don des nus. Les corps des esprits me reviennent. Corps des scènes, des arènes hantées, hantées. Faites comme chez vous, restez. Si tout devient opaque, ma reine, j'ai bien aimé ta paire de claques et surtout ton dernier. Des visages, des figures, des figurants effacés, des faces A, des faces B, des faces A, des faces B, des faces A. face B. J'ai douté des détails, jamais du don des nus. J'ai douté des détails, jamais du don des nus. J'ai douté des détails, jamais du don des nus. J'ai douté des détails, jamais du don des nus.
Nous sommes en Alsace, il y a quelques décennies, mais pas tant que ça. Et le jour où commence le conte, Monsieur Krohn, homme tout à fait respectable dans le village, décide qu'il est temps d'aller parler à son fils. Il est grand maintenant. « Mon fils, il est temps que tu te trouves une femme. Oh, chacun ses critères plus ou moins féministes, et souvent tu sais bien que les contes ne sont pas irréprochables là-dessus, alors je ne te donnerai pas les critères de sélection de ta femme. Je dirai simplement, trouve-toi une femme, il est temps. » Le fils, qui était un peu benêt, n'y avait pas vraiment pensé jusque-là, mais à la réflexion, il s'était dit que, oui, une femme, ça pourrait lui convenir, ça lui irait bien. Ça lui irait bien, ça ferait beau dans le tableau. Alors il se mit donc en quête d'une femme dans la ville. Et qui cherche finit un jour par trouver, et il revient au bout d'une semaine auprès de son père en lui disant « Père, écoutez, j'ai suivi votre conseil et je me suis trouvé une femme. Voilà, je l'aime, elle m'aime, et vous aviez raison, c'était une fort bonne idée. » Le père était ravi. « Mais écoutez, très bien, mon fils. Qui est donc cette heureuse élue ?»« Ah, eh bien, c'est Rosa Haas, la fille du cordonnier. » Un pli soucieux barra le front du père. « Rosa Haas, tu dis ?»« Ah oui, oui, mon père, vraiment, je l'aime beaucoup. Écoute, tu ne peux pas épouser Rosa Haas. » « Mais enfin, pourquoi, père, c'est vous qui m'avez dit de trouver une femme, et une fois que je vous en ramène une... Écoute, ne fais pas d'histoire. Tu ne peux pas épouser Rosa Haas. Point. Trouve-toi une autre femme. » Le fils bougonne un peu, mais un benêt ne bougonne jamais longtemps. Et il se remet donc, sur les conseils de son père, à la recherche d'une autre femme. Il se remet donc en quête dans la ville, et qui cherche finit toujours par trouver. Et il revient, quelques semaines plus tard, auprès de son père. « Père, écoutez, ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé une autre femme tout aussi belle, tout aussi bonne, et de laquelle je suis tout autant amoureux. J'aimerais épouser la fille du poissonnier, Ida Landsberg. » Un pli encore plus soucieux se barra sur le front encore plus moite du père. « Écoute, mon fils, tu ne peux pas épouser Ida Landsberg. Enfin, père, c'est ridicule, Je vous amène une deuxième femme et vous me dites « Écoute, mon fils, c'est un secret de guerre, tu ne peux simplement pas épouser Ida Landsberg. Point. Trouve-toi et une autre femme. » Et le bonnet se remit donc en quête. Et qui cherche finit toujours par trouver, et Trois semaines plus tard, il revient auprès de son père pour une dernière fois. « Papa, je veux épouser la fille du boucher, Juliette Nightingale. » « Ah, malheur !» dit le père. « De toutes les femmes de la ville, il fallait que tu me présentes celle-ci. » « Écoute, mon fils, je ne peux pas te le cacher plus longtemps, il faut que tu saches quelque chose. Comme tu le sais, il y a quelques années, il y a eu la guerre et... Eh bien, comment dire, la guerre a eu son lot de mystères et de choses peu avouables. Et voici mon secret, voici pourquoi tu ne peux pas épouser ces filles. Ces filles sont tes sœurs, tes demi-sœurs. La guerre était une période très différente. Je t'en prie, ne dis rien à ta mère, elle n'en sait rien, ça lui briserait le cœur. » Voilà, mon fils, pourquoi tu ne peux pas épouser ces trois femmes. N'importe qui d'autre, tu peux, mais pas ces trois femmes. Le soir même, le fils était effondré. Effondré par le secret, effondré par l'incompréhension, effondré par la trahison de son père. Et comme beaucoup, benêt ou pas, il alla chercher son réconfort dans le schnaps. Et c'était là, effondré sur la table de la cuisine, en pleurs, le verre à moitié vide, la bouteille à moitié vide et lui à moitié plein, que le trouva sa mère. Elle entra dans la maison, vit son fils dans un état pitoyable, alors elle vint s'asseoir avec lui. « Eh bien, mon fils, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu dans un état comme ça ?»« Ah, mère, je ne peux rien te dire. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est un secret entre père, moi et la guerre. » « Mais enfin, mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, tu peux tout me dire, je suis ta mère, raconte-moi. »« Ah, femme, s'il te plaît, ne me fais pas rompre mon serment. Le malheur m'assaille, mais je ne peux rien dire. » Et la mère a insisté, un peu, mais pas trop. Et le fils a fini par tout lui avouer. Alors la mère prit un sourire doux, elle caressa les cheveux de son fils et lui dit « Ne crains rien, mon fils. Épouse qu'il te plaît. Sois heureux et remercie ta mère, car moi aussi j'ai un secret. En un mot commençant, sache-le, tu es grand. Monsieur Krohn n'est pas ton père. »
Ich wollt.
Was willst du denn?
Dichten.
Oh, Herr Dichter.
Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei, nachmittags wär ich frei.
Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß.
Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh.
So hab ich mir gedacht.
Ich wollt, ich wär ein Huhn. Ich hätt nicht viel zu tun.
Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.
Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck.
Und hat er endlich was erreicht, nimmt seine Frau ihm weg.
Er lebt, wenn's hochkommt, 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur, wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauschebart.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wär ich frei.
Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld.
Und fände ich das große Los, dann fräse ich es bloß.
Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh.
Schön.
Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei, juhai.
Il était un pêcheur, dans un pays tellement lointain qu'on en a oublié le nom, un pêcheur qui s'appelait Driss. J'allais vous dire que Driss était un homme heureux, mais sait-on jamais qui est heureux? On va dire que Driss était un homme content. Toujours le mot pour rire, toujours de bonne humeur, toujours un sourire sur son visage. Et un jour, Driss marchait sur la plage, il allait retrouver sa barque qu'il avait posée sur le sable, quand il vit par terre, emmêlé dans un tas d'algues, un crâne. Un crâne humain, un crâne blanchi par le sel, le vent et le soleil. Un crâne là, empêtré dans des algues, qui attendait je ne sais quoi, tout seul, sur le sable et les coquillages. Driss se sentait d'humeur joyeuse, il avait envie de plaisanter. Alors, sur un ton de défi, il demanda au crâne, posé par terre, « Hé crâne, qu'est-ce qui t'a mené ici ?» Et le crâne ouvrit ses dents blanchies par le sel, le vent et le soleil, et lui répondit « La parole. » Alors, la Driss n'en revenait pas, bouche bée comme ça, un crâne qui parle. Ah non, non, mais ça n'existe pas, un crâne qui parle. C'est probablement le vent qui a soufflé dans les orbites, tourné dans le crâne, ressorti par les dents pour faire l'illusion d'un mot, mais ça n'est pas possible, un crâne qui parle. Pour être bien sûr, quand même, Driss s'adressa de nouveau au crâne. Hey, « Hé, crâne, qui t'a mené ici ?» Et le crâne répondit une deuxième fois, mais avec un brin d'impatience dans la voix. « Ben, la parole !» Driss partit en courant jusqu'au château du seigneur du village. Seigneur qui était justement en train de manger un porcelet bien gras. Il déboula en trombe dans la salle du trône. « Majesté, majesté, il faut absolument que vous veniez voir. Sur la plage, là-bas, il y a un crâne qui parle. » Le roi essuya ses doigts graisseux sur son poitrail velu et dit à Driss, « Écoute, jeune homme, tu m'envoies désolé, mais je ne te crois pas. Tu sais bien qu'en tant que seigneur dans ce village, je suis le gardien de la raison, et un crâne qui parle, ce n'est pas raisonnable, voilà. Cependant, sait-on jamais. Il y a beaucoup de choses pas raisonnables dans ce monde, et un crâne qui parle, ma foi, es-tu sûr de ce que t'avances ? Ah oui, oui, je suis sûr, Driss. Je l'ai vu comme je vous ai vu sur la plage, je lui ai parlé comme je vous parle, et ce crâne m'a répondu. Eh bien, écoute, dit le seigneur, je veux bien aller voir pour confirmer ou infirmer ton histoire, mais fais attention, tu sais que je n'aime pas être dérangé, surtout à l'heure du repas. Si tu t'es moqué de moi, tu le paieras de ta vie. Ah mais oui, oui, seigneur, pas de soucis, je sais ce que j'ai entendu, je ne suis pas fou. Alors Driss, accompagné du roi et de quelques-uns de ses gardes, se rendirent sur la plage jusqu'au crâne, qui n'avait pas bougé, toujours empêtré dans un tas d'algues. Bonjour crâne, dit Driss. Regarde qui je t'ai apporté, c'est quelqu'un d'important chez nous. Allez, dis-lui quelque chose. Et le crâne, étant crâne, ne dit rien. Écoute, dit Driss, tu me mets dans une situation un peu délicate là, c'est le roi de notre village. Dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Qui t'a amené ici ? Et le crâne s'obstine à rester muet. Alors le roi, un peu vexé mais surtout très impatient, tire son épée de son fourreau et d'un geste sec coupe la tête de Driss et repart manger son porcelet. Le roi s'éloignant, la tête de Driss roule un instant sur le sable et vient se coller contre le crâne dans le tas d'algues. Et alors le crâne desserre ses dents et dit « Hé tête, qui t'a amené ici ?»« La parole, » répond la tête, « la parole. » Mes histoires sont terminées pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les références des musiques et des contes passés dans l'émission sur la page Les Contes d'Albatros, sur le site www.radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle histoire. Bonne semaine à tous.